Grand Jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et bien ici sur Radio Immo.
Eh bien bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est 18h31, nous sommes en direct sur Radio Immo. Si vous arrivez sur l'émission, je rappelle que vous pouvez nous écouter via le site ou via l'application. Et si vous ratez cette émission, ne vous inquiétez pas, elle sera réécoutable dès ce soir en podcast sans aucune difficulté. On est ravis d'être avec vous pour ce numéro de juin 2024 pour le grand jury de la presse immobilière, un grand jury qui va être marqué bien évidemment par la température politique. On ne peut pas ne pas en parler. Autour de la table, nos amis de la presse immobilière. Merci à Jean-Marie Bordry d'être avec nous. Bonjour Jean-Marie.
Bonsoir Sylvain. Oui. Ça fait bizarre de vous dire bonsoir d'ailleurs.
Oui, alors bonsoir et en fait on ne se quitte plus. Puisque
exactement.
On s'est causé tout à l'heure à Sud Radio.
Et merci. Je vous dis bonjour le samedi matin sur Sud Radio.
Absolument. Merci Jean-Marie, le matinalier, journaliste à Sud Radio. Merci également à notre productrice, animatrice et journaliste, accessoirement coach vocal. Également. Charlotte Ecker, comment ça va Charlotte ?
Ça va très bien Sylvain, et vous ?
Ben, mieux, ce serait de la gourmandise.
Parfait.
Il vaut mieux avoir cette méthode-là en ce moment, parce que là, on n'est pas forcément toujours à l'optimisme. Voilà. Je rappelle les amis que vous pouvez bien sûr vous manifester sur l'application, nous écrire, et on tâchera de vous répondre, et vous pouvez même nous contacter, et s'il y a lieu, ben, vous pourrez même prendre la parole. Bruno Monnier-Vinard, bonjour. Bonsoir.
Bonsoir
plutôt.
Sylvain, comment bonsoir ça va à tous. Ça va bien, merci.
Voilà, célèbre journaliste du Point, merci d'être avec nous. On ne la présente plus, puisque tout le monde la connaît. Elle a essaimé pendant des années. Elle était journaliste au Monde. Elle a publié récemment un livre qui fonctionne plutôt très bien, Halte à la spéculation. C'est notre amie Isabelle Ray-Lefebvre.
Bonsoir.
Comment ça va Isabelle ?
Ben, pas mal.
Ben, je suis ravi de vous voir. Et bien sûr, notre partenaire qui nous donne des chiffres, des pistes et une météo régulièrement. Il y a un tout petit peu de travaux en ce moment, mais ce n'est pas grave. Et c'est Régis Sebi qui est avec nous. Bonjour Régis.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Alors, au menu de notre émission, comme d'habitude les amis, nous aurons une première partie avec la météo de l'IMO qui sera faite par Régis. Ensuite, la revue des journalistes, bien sûr, on va parler politique, bien évidemment. Et nous avons un grand invité qui a accepté de venir, on est ravis qu'il soit avec nous. Forcément, ça devait être un homme politique, forcément. Il est avec nous, il est maire de Mennecy, il fait partie de l'UDI, il est vice-président de la région Île-de-France en charge du logement, de l'aménagement durable et des territoires, ainsi que le SDRIF et environnemental, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Président de Grand Paris Aménagement, de l'établissement public foncier d'Île-de-France, le premier vice-président de l'Association des maires d'Île-de-France et secrétaire national de l'UDI en charge de l'écologie. Bonsoir Jean-Philippe Dugoin-Clément.
Bonsoir.
Merci de vous prêter à l'exercice du feu croisé de nos journalistes, surtout dans un contexte politique, on va dire, légèrement chahuté. On peut le dire comme ça.
Dans un contexte politique qui a l'image de la météo de ce mois de juin.
Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Voilà, c'est parti pour ce premier numéro, ce numéro de juin 2024. On se retrouve tout de suite.
La météo de l'IMO part bien ici.
De l'IMO par notre ami Régis Sebi. De quoi nous allons traiter ce mois-ci ? Un état de lieu peut-être perturbé par les événements politiques, mais un état de lieu nécessaire alors que l'on clôture la moitié de l'année 2024. Régis, est-ce que cet état de lieu du marché, est-ce qu'on peut faire une approche, avec la trêve estivale, donc compte tenu du climat actuel ?
Oui, le premier semestre est quasiment bouclé, on arrive à fin juin, et ce qu'on va retenir, déjà dans un premier temps, on va commencer par une bonne nouvelle au niveau de la transaction. La bonne nouvelle, c'est que la demande reprend après un dernier trimestre 2023 qui était au plus bas, et une demande qui reprend de plus 23% par rapport au dernier semestre passé. Donc on a bien cette demande, et qui fait écho, et c'est un bon signal, à la baisse des taux d'emprunt. Donc on voit que le fait que le financement commence à revenir ou à redevenir possible agit sur la demande et sur l'intérêt d'aller consulter les annonces et de contacter les agences immobilières. Au niveau de la location, là c'est un peu différent. C'est la tension, une tension qu'on connaît depuis 3 ans où c'est de plus en plus difficile de trouver un logement à louer parce qu'on a une offre qui ne se renouvelle pas et une demande qui ne cesse d'augmenter. Donc, en gros, on va avoir un marché bouché au niveau national, en particulier dans les grandes villes. Et si on doit retenir une grande tendance sur cette première partie de l'année, c'est en tout cas une tendance positive, c'est vraiment cette reprise de la demande au premier semestre.
Donc si on considère effectivement cette reprise de la demande, bien que quand même le marché locatif est quand même hyper grippé et qu'à la rentrée, il y a une rentrée scolaire, déjà que les étudiants étaient 17% à ne pas avoir trouvé le logement l'an dernier, cette année je pense que ça va effectivement s'aggraver, c'est quand même une bonne nouvelle, ces signes de reprise. C'est un bon, le marché, est-ce qu'on peut identifier vraiment un signe de reprise? Bien que on n'a pas toujours l'impression que les ventes reprennent des couleurs, on va dire rouge vif, ça serait plutôt un léger rose pâle.
Oui, alors juin comme actuellement et juin-juillet, en fait c'est la période où on profite de la trêve estivale pour emménager avant la rentrée. C'est assez classique, donc on devrait avoir logiquement plus d'annonces de biens à louer, en tout cas avec les étudiants qui terminent leurs études et remettent leur logement sur le marché. Et d'un autre côté, une baisse des annonces de biens à vendre avec les ventes qui vont s'effectuer à partir du printemps jusqu'à l'été. Ça, c'est en temps normal, mais ce qu'on voit depuis 4 ans, c'est qu'il n'y a rien de normal sur ce marché immobilier. Et on constate actuellement, malgré tous ces effets et ce phénomène de blocage, que l'envie d'immobilier est bien là. On le voit notamment sur Bien Ici, avec le trafic qui reste assez haut. On voit toujours des recherches qui reprennent, des gens qui vont consulter les biens, voir ce qu'il y a en vente et à louer dans les villes, et créer des alertes pour être les premiers alertés de l'offre disponible sur les lieux recherchés. Avec la baisse des taux d'emprunt qu'on a commencé à voir en début d'année, on a des projets immobiliers qui sont redevenus finançables et ça relance un petit peu d'entrain sur ce marché. C'est-à-dire que les projets qui étaient un petit peu limites, en tout cas au niveau des mensualités possibles, redeviennent finançables et réenclenchent l'envie ou en tout cas l'intérêt de pouvoir acheter. On a une offre qui reste à un niveau haut, cependant, depuis un peu plus de 6 mois, et un pouvoir, lui, qui a basculé plutôt du côté de l'acheteur, parce que, comme il y a beaucoup d'offres, forcément, c'est l'acheteur qui choisit, et l'acheteur qui, avec des moyens de financement un peu plus limités par les crédits, est plus dans une période d'attentisme, on ne va pas se le cacher. Du coup, ce qui pourrait débloquer peu la situation, c'est au niveau du prix.
Et ça négocie, quoi. Ça négocie sévère.
Alors, ça négocie. Je ne vais pas pouvoir vous répondre à ce niveau-là, parce qu'on va travailler en amont, nous, sur plutôt la recherche du côté de Bien Ici et voir ces tendances-là. Mais c'est clairement le prix qui joue le régulateur.
Pour conclure, on a de bons signaux, si j'ai bien compris, hein, mais ce n'est pas réellement pour tout de suite, pour une reprise, on va dire, l'embellie, ce n'est pas pour demain.
Alors, l'embellie, ce n'est pas pour tout de suite. C'est assez clair. On voit que ce démarrage, il est assez lent. On a encore des prix qui sont restés hauts. On a parlé de baisse de prix, mais qui est finalement assez minime par rapport au coût réel du financement d'un bien immobilier, notamment pour les primo-accédants, où c'est plus difficile. Quand on voit aujourd'hui qu'un loyer dans une grande ville et reste bien moins cher que les mensualités qu'on aura à payer pour un premier investissement, ben on a tendance à rester locataire en attendant que les prix soient de nouveau accessibles pour pouvoir acheter.
Vaut mieux être optimiste.
Et oui. Et en gros, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est une météo de l'IMO qui est à l'image de la météo générale. On a beau regarder par la fenêtre, et on se dit que l'été arrive. Voilà, il va arriver. On ne sait pas trop quand, mais il va arriver.
Reste à dissoudre les nuages.
Exactement.
Merci Régis, de toutes ces précisions et de nous donner d'ailleurs aussi toujours l'envie d'acheter. Effectivement, vous avez raison, ce n'est pas les biens qui manquent. Hein, on est plutôt sur un marché d'acheteurs. Bah, écoutez, négocier. En plus, la rénovation énergétique est aussi un levier pour négocier. Ça se voit de plus en plus. Merci Régis. On enchaîne tout de suite avec la revue de nos amis de la presse immobilière.
Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury.
Voilà, chaque mois, nos amis journalistes font leur coup de blues, coup de cœur, leurs envies. Là, on va dire que l'on est dans un contexte un peu particulier. Je vous propose que nous commencions par Isabelle Ray-Lefebvre. C'est quoi ce mois-ci ? Coup de cœur, coup de blues ?
Un coup de cœur.
Ou un coup de gueule, ça peut.
Ça peut. Un coup de cœur... J'étais à un colloque sur dénommé l'utopie foncière. Et à ce colloque, il y avait la maire de Saint-Gingolph. C'est un petit village de 900 habitants en Haute-Savoie, collé contre le lac Léman et contre la frontière suisse. Et elle nous a expliqué que sa commune de 900 habitants, donc petite ville, gros village, sur 800 hectares de cette commune, 500 hectares appartenaient à une société de bourgeoisie. Bourgeoisie, en somme, au sens habitant du bourg, c'est-à-dire à 250 familles qui sont en société et qui ne peuvent pas vendre ce terrain. Alors, c'est plutôt des alpages, de la montagne, etc. Mais ces 250 familles sont toujours là, donc elles détiennent plus de 50% de son territoire. Ils ont la mission de gérer collectivement et pour le bien général cette propriété. Ils ont une source, ils ont une carrière de pierre qu'ils exploitent. Et avec ça, ils restaurent les chalets d'alpage, ils financent en partie la commune. Et c'est un bien inaliénable qui ne peut pas être vendu. Et donc c'est quand même un mode de propriété foncière dans l'intérêt général qu'on appelle un bien commun, qui est assez intéressant et qui est toujours en vigueur.
Intéressant, c'est quoi ? C'est un... À chaque fois, je vous le dis, c'est la même chose, mais on a l'impression que vous décrivez un kibboutz.
Bah, c'est en fait, c'est bien commun.
C'est un bien commun qui appartient à tout le monde, qui est géré pour plus de 50% par les familles natives du territoire et qui le gère de façon collective.
Et il co-gère en fait la municipalité. Tous les vendredis, elle prend l'apéro avec le président de cette société de bourgeoisie et il finance les voyages scolaires, les choses comme ça, etc.
On est proche du kolkhoz fleuri, peut-être.
Oui, mais en fait, c'est un droit hérité de l'Ancien Régime, c'est ce qu'on appelait les biens communaux.
Vous connaissiez, si, Jean-Philippe, les sociétés de bourgeoisie
phalanstère, dedans oui. aussi.
Alors, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'habitations, hein. C'est de la nature, c'est de la forêt.
C'est un peu des contre-exemples, mais je trouve que c'est des sujets intéressants. Moi, je ne connaissais même pas le dispositif, voilà, donc j'avoue...
Mais alors, en France, il y a des biens communs. Il y a, par exemple, la forêt de la Teste à Arcachon, il y a les terrains des puits des volcans, etc. Ça existe encore, c'est surtout rural, bien sûr, mais ça revient très à la mode avec les réflexions sur à qui et comment gérer le foncier.
Alors, pas de coup de gueule ce mois-ci.
Non,
on en parlera justement dans le débat. On va passer à Bruno Monnier-Vinard ce mois-ci. C'est quoi ? C'est un coup de cœur, un coup de gueule ?
Un coup de cœur qui est localisé dans le Grand Paris, pour notre invité. Jean-Marie Dutilleul, un architecte qui travaillait avant, enfin qui dirigeait avant, qui co-dirigeait avant avec Étienne Tricot, le cabinet AREP, qui est un cabinet d'ingénierie et d'architecture de la SNCF. Depuis quelques années, il est revenu à sa propre agence. Et là, il vient de signer deux gares de la ligne E du RER, deux nouvelles gares. La ligne E du RER, elle va entre Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie. Et donc, il y a une extension, il y a un prolongement. Et là, il signe coup sur coup deux gares. Une qui est à Neuilly-Porte-Maillot, qui accueille 35 000 voyageurs par jour. Et l'autre, qui est un petit peu plus loin, à la Défense Grande Arche, qui accueille donc le double, hein, 70 000 personnes par jour. Je ne sais pas si on voit des images.
Voilà, on les voit à l'écran. Voilà, les amis. Ah oui, c'est magnifique.
Pourquoi j'ai choisi ces deux gares ? Donc, d'une part, c'est le même architecte. Et puis, deuxièmement, toutes les deux, elles sont creusées directement depuis le sol. Elles sont creusées à 30 mètres sous terre, donc il n'y a pas de voûte. Hein, et elles ont pas mal de particularités. La première, c'est qu'elles ont des batteries d'escalators qui sont extrêmement design. Certaines sont dans des tubes chromés, en aluminium. Il y a une grosse attention, là on le voit sur l'image aussi, il y a une grosse attention qui est portée à la lumière, qu'elle soit naturelle, par des puits de lumière, mais aussi artificiels. Il a travaillé avec des artistes et puis des spécialistes de la lumière. On a aussi, bon, là on voit une photo, là on voit qu'il n'a pas froid aux yeux. Il y a des colonnes monumentales qui vont jusqu'au plafond, qui est un plafond en bois, un plafond acoustique, hein, qui permet de réduire le bruit. Sur les côtés, vous avez des rideaux scintillants. Il y a, voilà, là on voit bien. Et même au niveau de l'éclairage, là on voyait des lustres. Il y a des lustres qui ont été faits sur mesure pour bien éclairer et ne pas éblouir les voyageurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça? Ben voilà. En fait, ces deux gares, elles ont toutes les deux des grands balcons qui surplombent les quais. Et on se croirait, ben, pour ceux qui ont connu Subway, hein, on y a un petit côté Subway dans ces...
Subway avec Besson. Christophe Lambert et voilà. Isabelle Adjani.
Mais c'est Subway ultra futuriste et je voulais donc rendre hommage à ce travail.
Que magnifique. Vous connaissez très bien, Jean-Philippe.
Oui, je suis heureux de ce coup de cœur. Je préfère les coups de cœur aux coups de gueule. Enfin, c'est donner un peu de positif dans une météo politique et immo qui ne l'est pas tellement. Moi, je trouve ce qui est intéressant là, c'est quand même dans un pays qui ne s'aime tellement pas, qui oscille entre l'extrême droite et l'extrême gauche électoralement, eh bien, rappeler qu'on a des architectes, des entreprises, des aménageurs qui ont un savoir-faire reconnu mondialement, qui sont capables de produire ça. On est capable, région, État, de financer des équipements publics comme celui-là. Bah, je trouve que c'est quelque chose qui fait du bien de se dire qu'on parle souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de choses extraordinaires qui se font. Et puis l'autre chose que je trouve intéressante, c'est le travail du volume. Moi, j'ai dans le livre que j'ai commis il y a un an, moi, je plaide beaucoup pour essayer d'imaginer, de réfléchir, de concevoir l'aménagement et la ville en 3D. Là, on parle du sous-sol, mais on peut aussi parler de la surélévation. Vous avez vu cet immeuble Osta qui a été construit sur le périphérique, 7 étages intégralement en bois pour une question de poids, de portance. Et donc c'est aussi un moyen d'effacer de l'espace, de ne pas aller consommer d'autres terres ou de réduire la consommation de terre en utilisant totalement une volumétrie. Et donc je trouve vraiment... Très bel exemple, très bel exemple.
Magnifique, vraiment magnifique. D'ailleurs, on peut consulter, bien sûr, les amis, tous ces photos. Et puis, je vous encourage, bien sûr, à y aller.
Il y a un architecte italien qui m'a dit l'autre jour, j'admire la France pour sa capacité à mener des grands projets d'infrastructure sur des dizaines d'années. Le Grand Paris a commencé en 2009 et c'est vrai que ça prend du temps, ça prend beaucoup d'argent, mais quand même c'est un héritage intéressant. Quand je pense que le métro, il a plus de 100 ans, on l'utilise tellement. Donc mener des grands projets d'infrastructure, c'est quand même un des talents de la France, en effet.
Que
nous achètent les Chinois. C'est vrai qu'on est très, très positif, mais ça va se durcir un peu tout à l'heure, bien sûr. Pas de coup de gueule, hein, ce mois-ci. On va le faire dans le débat.
J'en aurais tellement que...
On va le faire dans le débat. Voilà. Merci, Bruno Monnier. Toujours des très, très beaux exemples, magnifiques. Toujours très attendus. Charlotte Ekerle, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? On a un coup de cœur?
Oui, un coup de cœur. Alors, je tiens à remarquer quand même, vous avez vu, c'est très français, ce plateau. Parce qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on est toujours en train de râler. D'habitude, on a quand même beaucoup de coups de gueule. Hein. Et là, on est dans l'adversité parce qu'on sent que ça sent mauvais quand même en ce moment. Et on a tous un coup de cœur parce qu'on est capable de voir le positif. Alors, on va voir si ça se vérifie avec Jean-Marie, peut-être pas.
C'est sûr qu'avec les émissions qu'on voit en ce moment, nous, on démarre plutôt bien.
Hein, alors, Bruno, il y a toujours un coup de cœur. Hein. Moi, j'ai noté Bruno, c'est architecture.
Et puis, c'est beau. Il trouve toujours des choses magnifiques. Non, voilà.
Un autre vraiment mini coup de cœur qui n'est pas de l'architecture, mais vous allez voir pourquoi je parle de ça. C'est ce qui se fait là pour les JO. Vous avez vu le bassin de compétition de natation.
C'est un
bassin éphémère en fait qui va être mis dans la arena. Et donc cette architecture modulaire aussi qui participe à la fabrication de la ville, à ces événements, etc. Je ne parle pas de tous les autres projets. Là, il y a le groupe GA Smart Building qui vient d'inaugurer son siège qui est entièrement modulaire avec beaucoup de bois. Donc si je parle de l'architecture, c'est que ça nourrit, ça alimente aussi la fabrication de la ville.
Merci beaucoup Bruno. Le coup de cœur de Charlotte Ekerle.
Alors du coup, moi j'en ai deux, mais il y en a un, je vais faire le parallèle avec Subway dont vous parliez. On reste dans le cinéma, j'ai vu là passer, c'est une espèce de Madeleine de Proust pour moi, la maison de Maman, j'ai raté l'avion, est à vendre. Voilà.
Pas
un tarif en plus si excessif que ça, 4,8 millions d'euros.
Ah oui, quand même.
C'est dans la banlieue de Chicago. Chicago et je trouvais magnifique enfant cette maison de style géorgien. On se souvient tous avec la belle couronne de Noël, etc. Et voilà, j'ai trouvé ça rigolo de voir que...
Attention, il y a des clous dans le paillasson hein, quand vous marchez, notamment pieds nus. Il y a beaucoup de pièges dans cette maison, si vous rappelez le film.
Oui, oui, oui. Mais je pense qu'elle a été refaite. Alors, j'ai vu les photos avant-après. Alors, c'est rigolo parce que finalement, ils ont quand même vachement rendu plus moderne.
Donc, elle est en vente, alors.
Elle est en vente. Mmh. Elle est en vente. Donc, bon, les taux d'intérêt étant ce qu'ils sont en ce moment, c'est pas 4,8 millions d'euros.
Ah bah ça va.
Elle est à vous, si vous
avez... ça va, voilà. Bon, écoute.
Donc c'est le moment d'investir, Sylvain. Et puis après, de manière plus pragmatique, mais toujours coup de cœur, parce que c'est un sujet dont on débat beaucoup ici.
J'irai à partir du 8 juillet.
est-ce qu'on peut l'acheter sous forme de bien commun
collectivement? Alors, c'est bon. Ça. Question.
Non, mais je vois bien, en plus, c'est dans le cœur de Manhattan.
Non, la banlieue de Chicago.
On fait un truc commun dans un environnement.
Mais j'ai plus le nombre de mètres carrés en tête, mais en plus c'est vraiment énorme. Hein. On est vraiment sur une grosse
tournage,
maison.
Hein, pour le rappeler.
Oui.
Hein. Oui, c'était pas la
Sachant que la plupart des scènes ont été tournées quand même en studio.
C'était pas la maison de l'actrice. C'était John Travolta qui jouait le rôle du papa putatif, me semble-t-il.
Non. C'est pas très sobriété foncière.
Non. C'est pas très sobriété foncière.
Oui,
c'est plus américain.
Allô, maman, ici bébé. Bon, ok. Merci.
Justement, pour continuer sur le coup de cœur, que je pouvais présenter quand même un coup de cœur parce que j'y tiens, Sylvain. Il y a une étude qui a été commandée par la mairie de Paris pour voir un petit peu l'impact de l'encadrement des loyers sur Paris. Vous avez dû l'avoir passé aussi. Et en gros, juste le chiffre, c'est important de le dire, on est à 64 euros économisés par mois pour les locataires, ce qui fait que du coup, on a 4,2% de moins que si la mesure n'existait pas en montant de loyer. Donc c'est quand même pas rien. On se demande tout le temps, est-ce que ça a un effet? Est-ce que ça n'a pas d'effet? Mais pour les détracteurs, en coup de cœur, aujourd'hui,
d'économie par an,
je voulais dire, la mesure, apparemment, ça marche quand même.
Bon, on en parlera bien sûr dans nos émissions. Tout le monde n'est pas toujours d'accord. Pour terminer, donc, coup de cœur, coup de gueule, notre ami Jean-Marie, ce mois-ci, c'est quoi?
Allez, un petit coup de gueule quand même.
Ah, quand même.
De manière assez rapide, sur la volonté du Front Populaire de supprimer la loi Casbarian au nom, je cite, de la défense des locataires. C'est quand même passé un peu vite sur la loi anti-squat, qui était en fait le vrai nom de cette loi. Et en plus, c'est assimiler les locataires à des squatteurs en puissance. Et dernièrement, ça montre une certaine déconnexion dans la mesure où il n'y a pas beaucoup plus impopulaire, en fait, aujourd'hui, auprès de l'ensemble des Français, qu'ils soient de droite ou de gauche, que de prendre la défense des squatteurs, parce que ce serait pas leur faute. Donc ça, c'est le premier point. Et j'ai peut-être un petit coup de cœur ironique quand même pour ces propriétaires parisiens qui s'étaient arrachés les cheveux pour trouver les combines les plus impossibles pour mettre dehors leurs locataires pendant les Jeux Olympiques en espérant qu'un oligarque russe ou chinois vienne louer pour des millions leur chambre de bonne et qui se retrouvent aujourd'hui...
Ils sont pas très bienvenus, les oligarques russes pendant les Jeux.
Exactement, et qui se retrouvent quand même aujourd'hui le bec dans l'eau parce que finalement les loyers n'ont pas explosé comme on pensait qu'ils exploseraient dans Paris à l'approche des Jeux Olympiques, et c'est quand même la preuve qu'il y a une justice.
Merci beaucoup, voilà, c'est très clair. Et bien voilà, c'est parti pour le débat, on se retrouve tout de suite après.
Le grand jury de la presse immobilière, le grand sujet.
Rebonsoir Jean-Philippe Dugoin-Clément, merci d'avoir pris le temps de passer par le plateau. On va parler bien sûr politique et je vais démarrer, si vous voulez bien, avec un mini édito. Le 7 juillet 2024, l'Assemblée nationale sera recomposée. Voilà, le raz-de-marée des élections européennes a provoqué un séisme politique sans précédent. La réaction du président Macron, qu'elle soit tactique, stratégique ou simplement réactive, illustre finalement assez tristement l'état dans lequel se trouvent nos institutions. Pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale 15 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques, où nous attendons 15 à 17 millions de visiteurs? Que se passera-t-il si l'un ou l'autre parti trouve une majorité à l'Assemblée? Mais quelle est cette impression de devoir choisir entre la peste et le choléra? Certains prédisent un embrasement des villes, et si le RN, bien sûr, gagne les élections, et vice-versa. Le vote, il faut le rappeler peut-être, c'est la démocratie, c'est l'expression de la volonté d'une majorité. Mais qui a voté pour le Rassemblement National? Y a-t-il une France rétrograde? Y a-t-il une France raciste et refermée sur elle-même? Cette France des petites villes, des centres-bourgs, des banlieues oubliées, ce vote populaire qui a déserté les partis de gauche ont majoritairement voté pour le Rassemblement National. Il faut l'entendre, ça fait pas plaisir, mais il faut l'écouter et l'entendre, cette France des déserts médicaux, cette France où les commerces ont fermé, où il n'y a plus de crèches, ni d'écoles, ni de postes, ceux qui font 80 km par jour pour aller travailler, parce qu'ils se logent aussi loin, parce que tout simplement, ils n'ont plus les moyens de se loger près de leur employeur. Les élus locaux, au sens général, qui ont vu fondre leur dotation, leurs ressources fiscales, leurs leviers de décision, des finances locales exsangues, ces élus locaux aimés des Français, les plus aimés des Français, jettent l'éponge. C'est un phénomène nouveau, parce qu'ils n'en peuvent plus et on peut les comprendre. La ruralité absente des débats. Les agriculteurs qui nous nourrissent et qui n'arrivent plus à vivre dignement. Cette France-là, il faudra bien l'entendre, elle se manifeste par le vote. Il faut comprendre ce qui se passe dans notre pays. Le logement, première dépense contrainte des Français, devient l'obsession d'ores et déjà des jeunes actifs, des étudiants à l'aube de la rentrée. Et je ne vous parle pas des familles. Parce que le poids des normes et de la fiscalité a écrasé toute une industrie qui se remettra durement de cette crise majeure. Tous ces petits entrepreneurs taxés sans droit au chômage, sauf à payer des cotisations privées. Ces commerçants, ces artisans dont nous avons besoin et qui disparaîtront avec leur savoir-faire. Cette France-là, il faudra bien l'écouter. Car nul ne peut savoir de quel côté la mèche de l'embrasement dans notre pays pourra s'allumer. Après 2 mandats présidentiels, 4 gouvernements successifs, il est urgent d'écouter et d'apaiser cette France oubliée, quel que soit le bord politique. Une démocratie, c'est un organisme vivant qui doit être entretenu, non par la division, d'où rien de bon ne sortira, ni par l'extrémisme. Pour que les jours sombres ne soient pas à venir, moi j'ai envie de vous dire, les amis, et c'est bien de le faire en préambule de ce débat, moi je rêve de politique qui rassemble et qui nous donne l'envie d'espérer, avec une véritable confiance pour l'avenir, et je donnerai tout à l'heure, à toutes et tous, rendez-vous aux urnes. C'est parti pour le grand débat.
Le grand jury de la presse immobilière, sur Radio Immo.
Voilà, une réaction Jean-Philippe Dugoin-Clément.
Il y a une France qui souffre, c'est pas quelque chose de nouveau. On est dans un pays aujourd'hui qui est, pour moi, divisé en 3 blocs. Je parle sociologiquement, je parle pas électoralement, même si on peut retrouver des similitudes. Un bloc de grandes métropoles, de grandes villes, avec un développement économique fort, un niveau de services publics élevé, un niveau de revenus par habitant plutôt élevé. C'est la France qui se projette vers l'avenir, qui croit en l'avenir et qui va bien. Une France des quartiers dits politiques de la ville, c'est 6 à 7 millions d'habitants. Des quartiers souvent avec des difficultés sociales et urbaines lourdes. Une part des difficultés urbaines depuis 2002 et le plan Borloo a pu être travaillé, mais la question des difficultés sociales continue à se poser. Et pour le coup, cette partie de la France fait l'objet de ce qu'on appelle au travers de la politique de la ville, créée au début des années 90. Tapie était le premier ministre de la ville de Mitterrand, d'injection de crédits, d'injection de moyens en termes de fonctions publiques extrêmement élevées. Et puis, la France, qui n'est ni celle des métropoles, ni celle des quartiers, avec très souvent un sentiment de décrochage, un sentiment d'oubli, plus ou moins marqué selon qu'on soit en zone très rurale ou en zone périurbaine ou sur des petites villes. Vous savez, c'est cette image des villes préfectures ou sous-préfectures de France. Et c'est au fond, ces césures entre ces trois France qui vivent côte à côte, pour reprendre un peu le parallèle de Gérard Collomb, qui font qu'aujourd'hui, les gens ne se parlent pas, n'attendent pas les mêmes choses et ont énormément de mal à se projeter vers l'avenir. Et je pense que si on n'est pas effectivement capable. Les votes extrémistes sont le reflet d'un malaise, d'un mécontentement, mais comme l'avaient été les gilets jaunes, comme l'avaient été les bonnets rouges avant sur la question des écotaxes à la circulation. Mais au-delà de la reprise d'une colère, de l'aggravation de cette colère par des formations extrémistes, moi ce qui m'intéresse, c'est j'aimerais qu'on ait enfin effectivement des réponses à apporter à ces personnes qui souffrent. Vous savez, moi je suis suis élu d'une circonscription francilienne, mais extrêmement rurale. Et ça fait partie, l'éloignement des grands pôles urbains, le sentiment parfois de déclassement, le sentiment d'oubli, le sentiment de droit ou de devoir différent quand on est dans des territoires où on vit des RPI, c'est-à-dire groupements pédagogiques intercommunaux où c'est 30 ou 35 élèves par classe, plutôt, voilà, c'est je pense qu'on a collectivement un devoir de porter des réponses là-dessus. Et puis on a aussi collectivement un devoir de rappeler que, quelles que soient les difficultés auxquelles on fait face aujourd'hui, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, on fait partie à l'échelle de l'histoire des pays malgré tout privilégiés. On fait partie du tout petit pourcentage de privilégiés dans le monde. Des pays où on a à la fois la gratuité des études, une retraite assurée, une assurance maladie qui permet à chacun de se soigner, une assurance chômage, une liberté de pensée et de parole totale, une liberté politique, syndicale, sociale, sexuelle absolument totale. Il n'y a quasiment aucun pays, y compris dans les grandes démocraties occidentales, on va retrouver l'ensemble de tout cela. Et on a tellement plus confiance en l'avenir, en notre capacité de porter des projets de long terme. Vous l'évoquiez tout à l'heure, et pourtant on le fait au travers du Grand Paris Express, au travers d'autres projets comme cela. Eh bien, qu'on va collectivement donner les clés de ce pays à un parti d'extrême droite, même s'il s'est en partie, en tout cas optiquement, normalisé, ou à une coalition qui est portée par un parti d'extrême gauche, parce que LFI n'est pas un parti comme les autres, c'est pour moi un parti d'extrême gauche.
Eh bien, ça a le mérite d'être clair. Réaction, Isabelle ?
Non, je ne réagis pas.
Pourquoi ?
Ben, je suis un peu d'accord avec votre diagnostic. Hein. C'est vrai que, en fait, la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, elle a mis à genoux beaucoup de villes. Elle a supprimé les tribunaux, supprimé les services des impôts, supprimé les postes, supprimé les gares. On est incapable de remédier aux déserts médicaux. Maintenant, on a même des pénuries de médicaments. Enfin bon, donc la liste des souffrances, on l'a. C'est le terreau. Je pense qu'il faut remettre des services publics, remettre du social. On n'a plus beaucoup de MJC.
Est-ce que c'est cette France qui s'est exprimée ? Cette France qui a l'impression d'être oubliée ?
Oui, je pense qu'elle s'est exprimée. En fait, c'est à la fois territorial, comme vous disiez, urbaine, périurbaine et rurale, mais c'est aussi, je pense que c'est aussi beaucoup de, par niveau de diplôme et niveau de revenus. Il y a quand même les 10%, les personnes les plus modestes n'ont toujours pas retrouvé leur pouvoir d'achat d'avant 2009. C'est ça qu'il faut voir. Il y a quand même un problème de stagnation des revenus et de non-espérance des revenus des personnes les plus modestes. Il y a quand même une question de revenus qui est très forte.
Avant de vous donner la parole et de répondre, Bruno, vous vouliez intervenir ?
Oui. En fait, dans le livre que vous venez de publier, dont j'ai oublié le titre...
L'habitat fait le citoyen.
Voilà. Vous parlez d'un contrat de confiance, pas un contrat de confiance de Darty, hein, qu'on connaît, mais entre les maires bâtisseurs et l'État, et avec une demande de service public. Vous pensez à quoi ?
Tout simplement, si on veut relancer la construction, si on veut relancer l'offre, l'acte de bâtir, il faut qu'il y ait une acceptabilité et un intérêt local à le faire. Vous l'avez dit, la RGPP a été le démarrage de fermeture ou de restriction de services publics massifs dans tous les domaines. Les communes, depuis maintenant 20 ans, il y a eu une continuité des politiques publiques, quels que soient les gouvernements, ont été une variable d'ajustement budgétaire pour l'État. Et les communes, aujourd'hui, n'ont plus les moyens, bien souvent, d'accueillir de nouveaux habitants. L'acte de construire ne rapporte plus de recettes supplémentaires aux communes, à tel point qu'un maire peut avoir économiquement intérêt à garder un immeuble de bureau vide plutôt que d'accepter qu'il soit transformé en logement ou encore plus en logement social, si on ne prend que l'intérêt financier et budgétaire de la commune. Dans le même temps, l'acte de construire est quelque chose qui est de plus en plus critiqué par des habitants qui ont l'impression d'avoir une dégradation de leur pouvoir d'achat, de leur cadre de vie, d'avoir pas suffisamment de médecins, trop d'élèves par classe. Et donc, dire de nouveaux habitants, bah, c'est partager un gâteau qui est déjà insuffisant à plus nombreux. Et si on n'arrive pas à recréer, on peut faire toutes les politiques nationales qu'on veut, si on n'arrive pas à redonner l'envie aux maires de défendre des projets urbains et la capacité aux habitants de comprendre et de savoir, parce que les habitants ne sont pas des idiots. Pendant des années, la construction, à travers de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, des dotations, permettait aux communes, avec de nouveaux habitants, de nouveaux logements, d'amener de nouveaux services publics. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, si on ne recrée pas, d'une part, des recettes pérennes, visibles, garanties en fonctionnement sur un minimum de durée, entre l'acte de construire et les budgets communaux. Si on n'est pas capable de faire ce qu'on a fait dans les banlieues, quand on est dans des zones d'éducation prioritaire, on a su faire des classes à 12. Quand on est dans des communes comme la mienne aujourd'hui, on est sur des classes qui parfois peuvent être à 30 ou 32, puisque c'est une moyenne à 27. Donc, selon le nombre de CM2 par rapport au CE1, vous pouvez avoir ce type de choses-là. Vous pouvez avoir des non-remplacements d'enseignants pendant des mois ou des remplacements qui sont faits deux jours par un remplaçant, deux jours par un autre. Donc moi je pense que si on veut relancer l'acte de construire, il faut que sur les domaines régaliens de ce que fait l'État, la sécurité, la santé, l'éducation, il faut garantir un minimum de services publics. Quand vous êtes maire d'une commune, que vous assumez de construire pour loger des habitants, et ce qui est un acte et un devoir social, j'en suis profondément convaincu, mais que dans le même temps, il n'y a plus de médecins, que les médecins de famille qui restent refusent de prendre de nouveaux patients en tant que médecin traitant parce qu'ils sont déjà à 1400, 1500, 1600 patients en tant que médecin traitant, là où la moyenne francilienne qui est déjà beaucoup trop élevée est autour de 1300. Lorsque vous êtes dans des lycées où on refuse le redoublement d'un gosse en première parce que on n'a pas la dotation globale horaire. Lorsque vous êtes dans des communes où on n'a plus le nom nécessaire de policiers ou de gendarmes, même si ça a été un petit peu rehaussé ces dernières années. Comment est-ce qu'on peut expliquer à des habitants que l'acte de construire est acceptable? Et donc moi je pense qu'il faut recréer un pacte de confiance entre l'État et ceux qui délivrent les permis de construire, ceux qui portent l'aménagement, ceux qui au quotidien les yeux dans les yeux, quand il y a un projet urbain qui se fait, vont l'expliquer aux habitants.
Vous avez remarqué que là où il y a les plus forts déficits, c'est les services publics de l'État et pas les services publics donnés par les collectivités locales. C'est la justice, la police, l'éducation nationale, la santé. C'est là où il y a des manques criants. Et ça, c'est l'État national. Les collectivités, elles font la cantine scolaire, elles font ce qu'elles peuvent.
Elles écopent comme elles peuvent. Elles écopent comme elles peuvent. Mais moi, je considère que l'État a su avoir des politiques prioritaires sur certains secteurs parce que c'était justifié. Si on considère qu'on a un déficit d'offres de logement, un déficit de production, quel que soit le mode de production, que ce soit de la construction, que ce soit de la transformation, ça, après on peut en discuter pendant des heures. Mais bah, je pense qu'il faut aussi que l'État soit capable de dire des communes qui font l'effort de solidarité nationale de produire du logement, eh bien on les accompagne un peu plus que d'autres. On garantit un minimum. C'est tout simplement ça.
Charlotte, on avait recensé effectivement le programme des candidats aux européennes. Alors, juste pour prendre les deux parties qui effectivement posent question, la liste LFI souhaite garantir le droit au logement au niveau européen, notamment en interdisant les expulsions sans relogement, en adoptant une réglementation européenne pour restreindre les activités des plateformes comme par exemple Airbnb et dans les territoires qui le souhaitent. Côté RN, le RN propose assouplir les règles européennes en matière de rénovation énergétique, notamment de revenir sur le calendrier fixé dans le cadre de la loi climat et résilience.
Oui, alors c'est quand même fou que dans un contexte où le logement est le premier poste de dépense des Français, quand même, les deux seules parties qui s'en soient saisies pour les européennes, c'est les deux extrêmes. Je trouve ça juste incroyable.
Sur les autres parties, on va dire plutôt du centre, rien n'a été développé à ce niveau-là, ça voulait dire ?
Mais on dit souvent que le logement n'est pas dans le débat public au moment des campagnes électorales, que ce soit présidentielles, européennes, etc. Alors que, en fait, parce que la majorité des gens et la majorité des électeurs, des votants, disons, en fait, ils sont bien logés. Il y a 57% de propriétaires, dont 37% ont déjà fini de rembourser leur crédit.
Donc pas impacté, donc on en parle.
Donc pas impacté.
Et c'est souvent ceux qui votent le plus.
Et c'est ceux qui votent le plus. Donc effectivement, ceux qui sont le plus impactés, ce sont les jeunes qui votent le moins.
Exactement.
Donc moi, j'explique cette absence de débat autour du logement, et pourtant Dieu sait si c'est important dans la vie d'un citoyen, par le fait que la majorité des votants n'a pas de problème de logement.
Alors peut-être que comme aujourd'hui,
sauf
on est quand
enfants,
même dans
c'est
une
des vieux,
crise, oui. Une vraie crise du logement qui est sentie, vécue par les Français, est-ce que justement, ils ne se sont pas dirigés aussi, ces votants, vers des gens qui proposaient des solutions?
Une réaction, Jean-Philippe?
C'est le logement, c'est le grand absent du débat et des politiques publiques. Enfin, pour moi, le dernier qui a pu porter une grande politique de logement et d'aménagement, ça a été Borloo au début des années 2000.
Tout à fait.
Qu'a
eu, on va dire, un degré de pouvoir, de marge d'appréciation et de gain budgétaire, d'autres ministres du logement ont fait depuis, y compris en dehors de ma famille politique. J'ai aucun problème, on peut parler d'Emma Cosse, on peut parler de Sylvia Pinel, qui ont gagné des arbitrages. J'ai pas de difficulté là-dessus. Mais la réalité, c'est ce à quoi on assiste, qui s'est amplifié ces 7 dernières années. C'est l'attrification des ministres du logement, qui en général ne sont plus que des secrétaires d'État aujourd'hui, alors que Bercy a pris un poids de plus en plus fort et où le logement est devenu une variable d'ajustement budgétaire pour l'État et pour les comptes de l'État. Avec, souvent on dit, très bien, le logement, ça rapporte plus que ça ne coûte, c'est, on va dire, entre 87 à 90 milliards de recettes pour l'État, c'est entre 44 à 48 milliards de dépenses. Et on dit, tu vois, il faut réduire. Le problème, c'est que de réduire aujourd'hui le logement, est-ce qu'on va aller toucher aux appels? Alors, ça a été fait en 2017, d'ailleurs, d'où la RLS qui a gelé beaucoup de choses en capacité d'investissement. Moi, au-delà de ça, par rapport à ce que vous dites, pas forcément auto-convaincu que ce soit quelque chose de calcul politique en disant les mal logés ne votent pas. Il y a plus de 4 millions de mal logés en France quand on rajoute les gens en suroccupation, et puis le découpage électoral politique fait que vous avez des secteurs, y compris quand on est sur des secteurs plus jeunes, plus urbains, plus constitués de logements sociaux, où le pourcentage de votants est plus faible, mais enfin vous avez quand même un député qui est élu, qui représente. Donc j'irais pas vraiment. Je pense que la discussion sur le logement est assez inintelligible, parce qu'on est dans une politique qui est devenue la politique Twitter à 140 signes, que c'est devenu du TikTok, et que le logement, c'est une multitude de mesures complexes, et que c'est très dur d'avoir quelque chose qui soit, d'un point de vue marketing, audible. Quand vous dites « je vais supprimer la taxe d'habitation », c'est audible. Quand vous dites « il faudrait peut-être mettre un pacte de confiance avec les maires, réfléchir aux modalités des attributions en cale, réfléchir à la réversibilité des bâtiments, réfléchir à la façon dont on peut... »
Vous voyez,
il n'y a pas de suite. Et je pense qu'on est sur quelque chose...
Pour les législatives, là. C'est-à-dire qu'ils se sont tous quand même saisis...
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, moi je partage assez bien votre point de vue par rapport à cela, mais justement, on s'est intéressé à savoir à quel moment ces partis-là se sont saisis des préoccupations des Français. Vous nous avez fait une petite liste, Charlotte. Baisser la TVA pour le RN sur l'électricité, parce qu'effectivement, ça stigmatise aussi le problème avec les augmentations des coûts de l'énergie, et sortir des règles de tarification européenne. Pour le Renaissance, c'est moins 15% sur la facture dès l'hiver prochain. Voilà, ça c'est sur leur programme. Et pour le Front populaire, c'est carrément la suppression de la taxe Macron. L'augmentation des salaires vient aussi en deuxième position. Augmentation de 10% pour le RN par une exonération des charges avec les cibles de retraités notamment. Pour Renaissance, c'est une baisse des cotisations sociales et élargissement de la prime de pouvoir d'achat. Et la cible, c'est la classe moyenne. Pour le Front populaire, c'est l'augmentation du SMIC à 1 600 €. Là, c'est clair que c'est les classes populaires dans leur ensemble, avec un blocage de des prix de l'alimentation et le blocage de l'énergie. Tous ces programmes qui, dont on a l'impression de l'extérieur, peut-être pas d'une surenchère, est-ce qu'ils sont applicables globalement? Et moi, j'ai envie de poser une question qui est très politique, c'est qu'on a quand même des partis qui se manifestent, qui ont été aussi aux affaires. Pourquoi, finalement, on y pense que maintenant, pour relancer ce type de, ce type de demande? Est-ce qu'il n'y a pas un effet réactif par rapport au vote populaire qui s'est prononcé aux Européennes?
Si on prend les trois partis que vous avez cités, concernant ce qui a été annoncé par le Premier ministre, on est sur la continuité de ce qui a été fait depuis deux ans. On essaye de trouver deux ou trois axes nouveaux, mais on n'est pas sur une révolution de ce qui a été porté depuis deux ou trois ans. Quand on parle de logement, il y a des choses très coûteuses et des choses qui pourraient être faites qui ne le sont quasiment pas. Après, c'est un ensemble de choix qu'on peut porter, mais sur ce qui a été présenté par Gabriel Attal, il y a des choses positives, mais il n'y a pas de révolution. On dit très bien, on a compris, on va accélérer un petit peu sur ce qui est effectivement le premier poste de dépense captive des Français et surtout qui est inversement proportionnel au revenu. C'est-à-dire que le moins vous êtes aisé, le plus votre logement proportionnellement vous coûte cher. Sur des familles de classe populaire, le logement tout compris avec les frais induits par le logement, ça peut être la moitié des revenus. C'est quelque chose qui est devenu un facteur de distanciation et d'explosion sociale. Sur le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, on est sur deux partis qui ont eu des logiques un petit peu différentes sur l'établissement de ce qu'ils font. Dans les deux cas, ils n'étaient pas prêts. Il a fallu qu'en 8 jours, ils sortent des propositions sur le logement du chapeau. Et d'ailleurs, le Rassemblement National ne sort pas grand-chose, en dehors de dire très bien les 25% de la loi SRU, on peut s'en passer. Et puis de toute façon, les calendriers de rénovation énergétique, il n'y a pas d'urgence climatique. On a quand même beaucoup de climato-sceptiques sur cette frange de l'échiquier politique.
C'est pas exactement ce qu'ils disent, qu'ils veulent renoncer à l'obligation et l'application du calendrier. Ils remettent
très bien
en question.
Mais comment, quel nouveau calendrier, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on incite.
Mais enfin, vous enlevez les irritants, mais il n'y a pas de politique.
Bien sûr. C'est vraiment, on enlève, et puis c'est de dire, voilà, il y a 630 000 logements sociaux qui aujourd'hui sont occupés par des étrangers, donc il n'y a pas de problème de logement dans ce pays. Bon, moi je veux bien, demain on va mettre à la rue les infirmiers, les aides-soignants étrangers sans lesquels l'hôpital ne tournerait pas, je pense que le pays se portera mieux. Et concernant le nouveau Front Populaire, non mais il faut aller au bout de la logique. Moi il faut que monsieur Bardella, quand il va se faire soigner à l'hôpital, quand madame Le Pen fait soigner Jean-Marie à l'hôpital, son aide-soignante l'accompagne, il n'est peut-être pas français et peut-être qu'il bénéficie d'un logement social. Est-ce qu'il faut le mettre dehors? Est-ce qu'il faut le mettre à la rue? Est-ce qu'il faut le renvoyer chez lui parce qu'il n'aura pas les moyens de se loger? Mais c'est ce que propose aujourd'hui le Rassemblement National. Et que, du côté du Nouveau Front Populaire, ça a dû être beaucoup plus dur. Parce que mettre sur une même ligne M. Guedj et M. Guiraud.
Alors, quelqu'un... Il n'est pas sur la même ligne. Jérôme Guedj, il a refusé les tickets de Front Populaire.
Il a eu un courage extraordinaire de ce point de vue-là. Parce qu'il a des candidats LFI. Très bien. Mais M. Hollande, qui a été président de la République, qui accepte d'être sur la même ligne que M. Guiraud, qui fait des conférences antisionistes depuis Tunis.
Absolument.
Faut quand même rappeler ce qu'est devenu la France insoumise aujourd'hui. Bah, il a fallu qu'ils arrivent à trouver un plus petit dénominateur commun pour faire un programme du on rase gratis. Moi, dans ce qui est dit dans les propositions de la France, du Nouveau Front Populaire, il y en a beaucoup que je peux partager. À des degrés divers. Il y en a qui sont folles. La question de revenir sur la loi anti-squat, ce qui était votre coup de cœur, c'est une folie. Mais à l'inverse, effectivement, revenir sur la baisse des APL qui a généré la RLS, qui a durablement fragilisé les bailleurs sociaux qui ne peuvent pas construire.
Pour nos auditeurs, réduction du loyer de solidarité.
C'est en gros les bailleurs sociaux, enfin, c'est le péché originel de 2017, les APL sont diminués par le gouvernement, se rendant compte que socialement ça ne passe pas, on compense une partie des baisses d'APL pour les foyers les plus modestes, qui est prise en charge directement par les bailleurs sociaux. Et donc depuis 2017, les fonds propres des bailleurs sociaux ont totalement fondu, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus construire. Et donc effectivement, ça c'est quelque chose, moi je ne suis pas quelqu'un de sectaire, qu'on ne peut que partager. Le problème c'est comment est-ce qu'on le finance? Et donc là, on a une alliance qui a été faite, qui est une alliance contre nature, qui est une alliance électorale pour sauver des députés, gagner des circonscriptions. Comme ils savent qu'ils ne gagneront pas, le problème, c'est pas d'avoir à gouverner, c'est uniquement de rentrer, si possible, plutôt 200 députés, comme 140 aujourd'hui, mais c'est une alliance électorale, au même titre que ça l'était en 2022, où il a fallu coucher sur le papier des points non financés. C'est pas grave, c'est Royal Obar en race gratis.
Parlons vrai, hein.
J'en arrive sur cette radio, oui.
Une alliance entre le PS et les FI et les écologistes, on est d'accord.
Et les communistes. Okay. Et également le NPA.
D'accord. Pourquoi les autres partis n'ont pas fait d'alliance? L'UDI n'a pas fait alliance avec Renaissance et Horizon?
Bah, l'UDI aujourd'hui.
Vous dénoncez une alliance contre nature. Pardonnez-moi. L'UDI, vous dénoncez une alliance contre nature. L'UDI. Et les autres partis ont fait des alliances.
Mais je vais être extrêmement clair là-dessus. L'UDI aux européennes a fait liste commune avec Renaissance. Mmh. Pourquoi? Parce que sur la question européenne, sur la question de la vision de l'Europe, nous n'avons strictement rien en commun avec la liste LR. C'est pas quelqu'un comme Michel Barnier qui conduisait la liste. C'est François-Xavier Bellamy. Il y a deux anti-IVG sur les cinq premiers de la liste. C'est une liste dont une partie, la numéro 2 de la liste, a suivi la ligne de M. Ciotti, qui est des accords avec le Front National. Et LR n'a jamais, en plus, eu une vision particulièrement européenne. À l'inverse, sur la question européenne, oui, quand on prend le champ politique, nous n'étions pas en état de pouvoir faire nous-mêmes une liste. Ce qui correspond le plus aux valeurs européennes d'un parti centriste comme l'UDI, c'était Renaissance. Après, aux élections législatives, nous soutenons tous les candidats qui sont dans l'arc républicain, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni Front National, ni dans cette alliance contre nature acceptée par les partis de gauche. Ça peut être des LR, ça peut être des UDI, ça peut être des Nouveaux Centres, ça peut être des Renaissances, ça peut être des Horizons, ça peut être des Modem.
Précision aussi, parce qu'il faut tout pour faire un monde, en particulier au centre. Vous avez au moins deux candidats soutenus par le Rassemblement National qui sont passés de près ou de loin par l'UDI. Je pense à Meyer Habib qui était député UDI. Et je pense aussi au magistrat Charles Prats qui était proche de Jean-Christophe.
Mais comme Julien Odoul a été à l'UDI également. Comme un certain nombre de ministres sont actuels ou passés de M. Macron, sont passés par l'UDI. Voilà, on est une école de champions, mais le problème, c'est que beaucoup tournent mal après.
Une force centrifuge. Les transfuges de pays dans
ça mérite d'être clair.
Dans Seine-Saint-Denis, il y aurait beaucoup de choses à dire.
Jean-Marie.
J'aimerais juste revenir sur ce qui a été dit au début, parce que je suis toujours un peu gêné. Je souscris à beaucoup de ce qui a été dit dans les raisons du malaise français, mais le départ des services publics, l'éloignement avec notamment la révision générale des politiques publiques, qui expliquerait en partie votre Rassemblement National. Ça date de 2007, la RGPP.
Oui.
Et avant 2007, vous avez déjà eu Jean-Marie Le Pen au second tour, y compris dans des régions qui sont durement éprouvées par le départ des services publics, comme la campagne où j'ai grandi, par exemple. Donc,
c'est
que ça n'est le Loiret. Le Loiret, on est en plein dedans. On va tout droit vers un grand chelem Rassemblement National. Et ça a commencé, ça n'a rien arrangé, rien ne s'est arrangé avec le départ des services publics. Mais donc, est-ce que c'est ainsi qu'on peut expliquer votre Rassemblement National? Je suis pas sûr que ça n'arrange rien, je suis d'accord. Mais ça vient de beaucoup plus loin. Et ça ne s'est pas arrangé depuis.
Pourquoi le logement ne fait pas souvent débat au sein des campagnes électorales? C'est aussi parce que c'est une responsabilité partagée entre l'État et les collectivités locales. C'est forcément des politiques qui engagent à la fois l'État et les collectivités locales. Donc c'est vrai que c'est compliqué de savoir qui est responsable de quoi. Moi, j'ai longtemps observé la politique du logement. Et pour moi, les trois ministres du logement les meilleurs que j'ai eus, j'ai commenté, si j'ose dire. C'est d'abord Pierre-André Périssol, en 1995. Il arrive, Jacques Chirac a fait campagne sur la fracture sociale, etc. Il arrive en septembre 1995, il déploie le prêt à taux zéro, l'avantage Périssol pour les investisseurs
tout
particuliers, et ce que aucun ministre du logement n'a fait depuis, il réquisitionne, je ne sais pas si vous vous rappelez, la rue du Dragon, l'abbé Pierre,
Dragon,
etc. Il réquisitionne des logements vides, il y en avait à l'époque notamment. Donc il a une politique assez équilibrée qui relance le marché immobilier qui était profondément... Deuxième
et avec,
grand.
Je coupe, la capacité à gagner des arbitrages budgétaires et être suivi par un président et un premier ministre. Parce que les deux mesures que vous indiquez, c'est des coûts budgétaires qu'il a gagnés. Là où, sorti du CNR, le Conseil national de rénovation logement, ça a été 4 milliards d'enlevés sur ces mêmes postes l'année dernière. Mais je vous ai coupé, je suis désolé.
Deuxième ministre, c'est quand même le père de la loi solidarité renouvellement urbain.
C'est Jean-Louis Borloo.
C'est Louis Besson et un communiste Guesso. Enfin, c'est surtout Louis Besson. Et en fait, Thierry Repentin, qui est président de l'ANA, maire de Chambéry, était au cabinet de Louis Besson. C'est son bébé, hein, la loi SRU. C'est quand même une loi qui produit des effets, mais à long terme. Elle date de 2000. Elle avait donné à 2020, maintenant 2025, l'objectif de ce que les villes urbaines, les communes urbaines, se dotent de 20, maintenant porté à 25% de logements sociaux. Et elle produit des effets quand même.
Et le troisième, c'est qui alors ?
Et le troisième, c'est Cécile Duflot, avec sa loi Allure. Le problème, c'est qu'elle n'a pas vraiment assuré le service après-vente de sa loi, mais elle nous a laissé...
Vous allez vous faire des amis ce soir.
Oui, oui, elle nous a laissé des outils que je trouve aujourd'hui très intéressants. Les organismes fonciers solidaires, le bail réel solidaire, qui est une forme d'acquisition non spéculative, et les coopératives, qui n'ont pas encore beaucoup prospéré en France, et il manque encore des choses, mais je trouve quand même que c'était assez visionnaire de nous laisser ces deux outils. Le problème, c'est qu'elle n'a pas vraiment fait le service après-vente de sa loi, elle est partie...
On va répondre à tout ça, justement. Jean-Philippe Dugond-Clément, alors je ne partage pas du tout. pas du tout. Pour moi, c'est Sud de Clos. Finalement, elle a une vertu, c'est très bien, c'est de rassembler une profession, notamment qui a, par exemple, créé un moteur de recherche qui aujourd'hui appartient à la profession, c'est par exemple bien ici. Hein. Ça, c'est clair qu'elle a stigmatisé.
Bravo, Cécile Duflot.
Moi, je mettrais... oui, mais on le faisait à l'époque là-dessus. Moi, j'ajouterais quand même Jean-Louis Borloo et Emmanuel Cosse. Une réaction, peut-être, Jean-Philippe Dugond-Clément ?
Non, mais moi, il y a certaines choses que je partage.
Vous avez raison quand vous dites que les arbitrages budgétaires sont vrais.
Et le problème, c'est que le logement, depuis des années, les ministres en charge n'ont plus le poids politique pour pouvoir gagner des arbitrages, quelle que soit leur sensibilité politique. La question de la SRU que vous évoquiez, ça fait dans les grandes lignes de débat. Moi, je ne suis pas contre la SRU. Je pense que c'est une loi qui a permis de produire du logement. Je pense que la SRU devrait aujourd'hui faire le objet d'une réflexion sur l'introduction de facteurs qualitatifs. Parce que la loi SRU, le défaut de la loi SRU aujourd'hui, c'est que c'est une loi qui est uniquement arithmétique et mécanique. Et elle peut, avec le rétrécissement du coût du foncier, amener, pour produire du logement, à surproduire, pour parler clair, du studio et du deux pièces, plutôt que des logements familiaux, parce que s'ils sont comptabilisés exactement de la même manière, et que quand vous êtes une commune qui est massacrée financièrement par l'État, parce que c'est quand même des choses à laquelle on assiste, parce qu'il n'y a pas de véritable ajustement en fonction de l'effort qui est fait par les communes, la tentation, notamment quand il n'y a pas de foncier ou peu de foncier, ça peut être de multiplier des petites surfaces, des petites typologies, et au sein de ces petites typologies, de petites surfaces. Parce que également, vous pouvez avoir un T2 à 25 mètres carrés ou à 45 mètres carrés. Et l'un des sujets de la SRU aujourd'hui, avec l'augmentation du coût de production, la raréfaction du foncier, c'est que si on ne vient pas réfléchir à cette loi en introduisant un peu des critères qualitatifs, ça peut être une loi qui contribue à faire de la production bas de gamme ou peu qualitative. Donc c'est une loi qui a eu le mérite d'exister, qui a permis de soutenir, de relancer la production du logement, qui a permis de répondre à des inégalités sociales. Et quand on parle de la SRU, ça concerne aussi bien... du PLS que du PLAI, donc on est quand même sur des fourchettes très diverses, mais aujourd'hui la SRU, elle devrait évoluer pour introduire des facteurs qualitatifs, si on veut être juste.
Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout qu'en plus il y a une hétérogénéité dans les territoires et effectivement, ça, pour moi, c'est de la dentelle. Vous avez absolument raison. Régis Sebi, vous vouliez réagir peut-être en analyse.
Juste un petit point là-dessus, c'est que ce qui marque la différence aujourd'hui, c'est que se loger devient de plus en plus synonyme de contrainte pour beaucoup plus de personnes. On parlait des votants tout à l'heure qui ne sont pas concernés. En fait, ils le sont de plus en plus, parce que parmi ces votants, on va voir des parents, on va voir des familles qui ont des enfants à scolariser, qui deviennent étudiants et qui peinent pour trouver un logement pour leurs enfants, qui doivent les garder aussi chez eux. Et il y a le problème aussi derrière de l'allongement de la durée de vie, de l'âge en général, qui fait que ce logement global qui peut être aussi bien local, social, dans tous les axes qu'on peut avoir, il est aussi dans une dimension intergénérationnelle avec beaucoup d'individualités. Les individualités, on les voit dans tous les sens. On les voit parce que beaucoup pensent son logement comme il devrait être, comme il le souhaiterait, mais derrière, en fait, il y a énormément de concessions. Donc ce qui compte énormément dans la résolution du problème, c'est pas tant un manque de logement ou d'offres disponibles, mais c'est comment se passe le logement, aussi bien dans les localités, qu'elles soient rurales ou urbaines, pour être adaptées à l'offre. Mais ça, c'est un sentiment assez global. Hein. Enfin, en tout cas, en tant que portail, on suit le trafic.
Une réaction peut-être sur cette idée ?
Non,
sur la perception.
Je partage.
Oui, vous voulez commenter ? Il nous reste 3 minutes.
Je voulais juste dire... Le logement, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une des manifestations de quelque chose pris dans un schéma bien plus grand que ça, en fait. On est rentré dans une ère industrielle de l'information, pour ne pas dire de la surinformation. À chaque changement, comme ça, si on regarde à travers l'histoire, il y a des grands cycles qui...
Des exodes.
Voilà. Enfin... Le logement, c'en est une des manifestations, et peut-être, je sais pas, et ça rassurera peut-être Isabelle, peut-être qu'on arrive aussi, et j'en ai déjà parlé ici sur ce plateau, on est le système capitaliste tel qu'il est conçu aujourd'hui est peut-être en train de
nous dire que finalement on pourrait basculer par une forme de planification du logement, c'est
alors,
ça l'idée?
Déjà, ce que je voudrais dire, je voudrais parler de un concept, la fenêtre d'Overton. Hein, à partir du moment où un sujet est impensable, on n'en parle pas. Ensuite, il devient radical. On commence à en parler, mais attention. Et ensuite, on va passer à l'acceptable et enfin, simplement au sensible. Et c'est ce qui, pour moi, s'est passé dans ce débat. Et notamment le passage des extrêmes. Et là où je vous rejoins complètement, Monsieur Dugoin-Clément, c'est que aujourd'hui, on est passé à quelque chose de tout... C'est acceptable d'en parler. Moi, je vais finir en disant ça. J'ai envie presque de rétablir les grands électeurs à l'issue de
acceptable,
ce...
Non mais acceptable d'en parler, ça veut dire quoi ? C'est l'absence de débattre finalement avec des forces opposées. Il y a quand même une France qui a voté. J'aimerais bien qu'on analyse aussi le fait que cette France qui a voté a voulu manifester quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui on a une classe politique qui est capable finalement de poser à place sur la table, alors je sais que c'est pas très bankable, mais de dire voilà, il y a un vrai problème dans le pays, effectivement, vous avez
personne
raison.
Personne n'a dit le contraire.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, on ne prend pas assez conscience, et je partage votre point de vue, qu'on est des enfants gâtés, finalement, quand, à l'échelle de l'humanité. Vous avez raison. Vous avez raison.
On a eu la chance à la naissance. La chance de naître en France à la fin du 20e ou au début
dans
du 21e,
du monde,
plutôt
dire.
Que dans beaucoup, beaucoup d'autres pays, oui. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats à mener, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des progrès à faire, qu'il n'y a pas des chantiers à porter, qu'il n'y a pas des engagements à avoir. Mais moi, ce qui me rend fou, ce n'est pas de se dire qu'il ne faille pas bouger des lignes, changer des choses, c'est de se dire qu'on est dans un... Enfin, on fait partie des pays au monde où on a le moins confiance en nous, où on s'aime le moins, où on doute le plus de ce qu'on est, où on ne se projette pas sur l'avenir. Et c'est collectivement qu'on a cette espèce de mal-être. Alors, les hommes politiques ont probablement une part de responsabilité. Enfin, en même temps, les hommes politiques, ils ne sont que les représentants des citoyens. Donc, je pense qu'on l'a collectivement. Élus, journalistes, chefs d'entreprise, citoyens. On a besoin de redonner envie, au fond. Au fond. Et si on n'arrive pas à faire ça, eh ben je pense qu'on sera sur quelque chose qui est totalement contre nature pour notre pays. C'est aller vers des extrêmes.
Nous allons devoir bientôt conclure. Je rappelle juste, parce que c'est intéressant de regarder l'histoire, le décret des solutions qui ont été faits dans notre pays, ça a été fait à 6 reprises. J'ajouterai une 7e reprise, qui est le gouvernement de Pierre Fumelin, vous savez, en 1958. Où le président René Coty, on est sous la 4e République, se trouve dans l'incapacité de gouverner à cause du conflit colonial au sens large, puisqu'il n'y avait pas à l'époque que l'Algérie, le Maroc ou le protectorat tunisien. Et il rappelle le général de Gaulle qui arrive, et on ne se souvient pas assez qu'on a donné les pleins pouvoirs au général de Gaulle, qui opère une transformation absolument incroyable, qui a d'ailleurs donné l'essence à un livre qui a été publié dans cette période, hein, rappelez-vous, c'est François Mitterrand qui publie ce livre. Il publie un livre qui s'appelle
Le coup d'État permanent.
Le coup d'État permanent. C'est la,
coup d'État dont il a bien profité après, d'ailleurs, quand il a été président.
Et donc accouche avec Michel Debray, qui avait déjà d'ailleurs travaillé sur ce projet de constitution, la constitution de 1958. Ensuite, on est le 10 octobre 1962, où Charles de Gaulle dissout l'Assemblée, il est réélu triomphalement avec les élections de 65, et d'ailleurs c'est la première élection auquel participe François Mitterrand contre le général de Gaulle. On est en 68 avec les événements de 68, ensuite c'est le 22 mai 1981, on s'en souvient, moi je m'appelle, j'avais 16 ans à l'époque, le 14 mai 88 par François Mitterrand à nouveau, ensuite 97, c'est le 21 avril par Jacques Chirac, et enfin le 9 juin 2024 par Emmanuel Macron. Juste une question comme ça pour conclure cette émission. Que se passera-t-il le 8 juillet 2024 ? Et est-ce que nous ne sommes pas finalement au bout d'un cycle dans cette Ve République qui doit émerger peut-être un nouveau modèle institutionnel de gouvernance dans notre pays ?
Ça fait des années qu'on est au bout d'un cycle. C'est aussi un des problèmes structurels de ce pays. Mais le 8 juillet, moi je suis très inquiet, quel que soit ce qui arrive, on peut avoir des partis dirigés par des extrémistes qui ont dans leurs entourages, même s'il y a une part de normalisation, des gens qui sont des extrémistes qui arrivent au pouvoir. On peut être aussi dans une forme d'ingouvernabilité total du pays, ce qui pour moi n'est pas la moins envisageable des solutions. Ça a été le cas en Belgique pendant 2 ans. Et quand on a un pays qui a besoin de pouvoir avancer, de pouvoir se réformer, je suis pas sûr que ce soit très bon non plus. Vous savez, moi je suis... on parle beaucoup dans l'immobilier de la question de l'investissement. Bah, les investissements nord-américains, si LFI arrive, on va les perdre. Les investissements du Golfe, si le Rassemblement National arrive, on va les perdre. Et dans un cas comme dans l'autre, on peut aimer ou pas l'Amérique du Nord, on peut aimer ou pas les pays du Golfe, on est un pays qui bénéficie d'investissements massifs étrangers et on risque, quoi qu'il se passe, d'en perdre beaucoup.
Merci beaucoup Jean-Philippe Dugoin-Clément. Je suis vraiment très heureux que vous soyez venu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le maire de Mennecy, vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge du logement et vous êtes, je vous le dis, l'un des rares hommes politiques qui sont passés sur le plateau de Radio Immo, qui a une réelle compétence sur le logement. J'allais dire, à quand finalement Jean-Philippe Dugoin-Clément aux affaires au matière de logement ?
Très heureux à Mennecy.
Ça serait vraiment une très bonne chose. Je rappelle également que vous êtes le président de Grand Paris Aménagement qui fait un travail remarquable.
Vous comme Emmanuel Coste d'abord.
Et les deux établissement public foncier d'Île-de-France, une activité bien sûr pléthorique. Vous entrerez peut-être dans l'opposition dès le 8 juillet 2024. Ce qu'on vous souhaite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans l'avenir politique ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Qu'est-ce que vous diriez à toutes celles et ceux qui nous écoutent ?
Les choix qu'on fait nous impliquent. Chaque choix a une conséquence, y compris quand on a parfois l'impression que ça n'en a pas.
Merci Jean-Philippe Dugoin-Clément. Merci également à Isabelle Rey-Lefebvre. Je rappelle son livre.
Merci à vous.
Halte à la spéculation.
Alors, sur le logement.
Voilà, sur le logement. On n'est pas d'accord sur tout, mais en tout cas, ça a le mérite d'être extrêmement intéressant. N'oubliez pas.
Ça présente des solutions.
Voilà, les solutions. Il y a les maisons de bourgeoisie. Moi, j'ai appris quelque chose. Hein,
sociétés de bourgeoisie.
Voilà, les sociétés de bourgeoisie. J'ai vraiment appris quelque chose. On apprend toujours quelque chose avec Isabelle Rey-Lefebvre. Merci. Merci également à Bruno Monnier-Vinard. Merci pour ce fabuleux dossier qui a été publié le 6 juin 2024 dans le journal Le Point, qu'on peut encore acheter dans les kiosques. Et en plus, il y a un portrait, une interview qui a été remarquable d'un journaliste très connu. Voilà, ah, non, mais c'était un joke, voilà, puisque j'ai écrit cet article.
Il y avait un portrait de Philippe Brillant qui a été fait, plus qu'un portrait,
une interview
sur le besoin de réforme dans le logement de la part de Philippe Brillant qui a été effectué par Sylvain Valency.
D'ailleurs, il dit dans cet article, oser, c'est ce qu'il propose à Bruno Le Maire. Merci également à notre super productrice Charlotte Eckerl, merci pour cette émission. Merci également à l'animateur, vedette et journaliste de Sud Radio avec qui j'ai le plaisir, tous les samedis dès 9h17, de faire cette émission avec Parlons.
Vous auriez encore été invité si vous n'aviez pas dit ça. Hein, à samedi ?
Oui, absolument. On se retrouve samedi. Et d'ailleurs, on va se retrouver aussi pour l'année prochaine, puisque normalement, on va reconduire Parlons IMO aux côtés de notre ami Jean-Marie Bordry, qu'on écoute bien sûr avec beaucoup de vigilance et d'attention sur Sud Radio. Un immense merci à notre expert immobilier, Régis Sébille.
C'est toujours un plaisir.
Qui nous partage son savoir. Merci aux équipes de Bien Ici. Merci à Jason. Merci à Baptiste. Merci à Théo. Merci à Grégory. Merci à Philippe de Lignyville qui nous écoute, je pense, de l'autre côté, au président bien ici, Cyril Janin, et tous nos partenaires d'avoir fait cette émission. Un immense merci à vous, Jean-Philippe Dubois-Clément, ne changez rien, continuez à être ce que vous faites, et merci pour ce que vous êtes. Merci. Le mois prochain, Charlotte, on va recevoir la présidente de CDC Habitat.
Tout à fait.
Anne-Sophie Grave, et ce sera le 18 juillet à 18h30. Et voilà, je lance l'appel. J'espère qu'il y aura encore quelques Parisiens.
Le
plus grand bailleur social. Donc, elle nous fait le plaisir de venir chez nous le 18 juillet. On va parler, bien sûr, du logement social et de ce qui se passera, bien évidemment, après ces élections. On espère qu'on sera là, bien évidemment. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, rendez-vous le 30 juin aux urnes et le 7 juillet pour le second tour.
Allez voter.
Merci à tous.
Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et bien ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.